Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez l'émission Ciné Brunch, votre magazine de cinéma qui s'assume. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de Louis Laramé et Mélinda Lopez-Nadeau. Bonjour.
Allô.
Et on vous l'a annoncé la semaine dernière, Star Wars épisode 8 est enfin sorti en salle. On peut dire que Les Derniers Jedi est sorti Jedi dernier. Jeudi dernier?
Non.
Mais laissez.
OK. On va faire une grande table ronde en deuxième heure d'émission sur, justement, cet épisode 8 de La Guerre des Étoiles. Sinon, dans quelques minutes, on va critiquer pour vous trois films. La mise à mort du cerf sacré, A Christmas Prince et Le sens de la fête. Sinon, Louis, quoi de neuf, docteur?
C'est très drôle que tu parles de docteur, vu le film que je viens de voir.
Oui.
Mais moi, je veux parler à tous nos auditeurs et auditrices qui sont amateurs de mauvais films. Spécifiquement, The Room, qui est maintenant une légende dans le cinéma de pas bon. Le classique de Tommy Wiseau est maintenant a une place d'honneur au palmarès des pas bons films. Et j'ai entendu, entre les branches, que le 11 janvier prochain, la Maison du cinéma organise un événement spécial autour de The Disaster Artist, ce film basé sur le livre, basé sur le film, mettant en vedette, entre autres, James et Dave Franco, qui a déjà recueilli des critiques extraordinaires au box-office.
Donc, c'est très intéressant qu'il y ait une projection. Est-ce qu'il y aura une projection du vieux film aussi?
Les branches n'ont pas été si
OK, bon. Eh bien, c'est intéressant. Et sinon, de ton côté, Mélina?
Moi, de mon côté, j'ai vu sur Netflix le retour, le comeback, si on veut, de Judd Apatow, qui est un producteur, réalisateur qu'on a connu pour de nombreuses comédies, qui faisait du stand-up comique avant, je sais pas comment le dire en français.
One-man show.
C'est de la stand-up comédie.
Bon, mais qui faisait de la stand-up comédie avant, puis qui a décidé de retourner à ça en lançant son retour 25 ans après sur Netflix. Donc, c'est un spectacle d'humour qui dure une heure, à peu près une heure et quart. Puis, il parle de sa vie avec ses enfants, sa femme, qui est Leslie Mann, qui est une actrice aussi. Donc, Judd Apatow, qu'on a connu pour de nombreux films. Donc, entre autres, c'est lui qui a réalisé 40 ans toujours puceau, En Clock, Mode d'emploi, Funny People, qui ont été quand même des succès au box-office. Sinon, il a produit Freaks and Geeks, Les années campus. Donc, plusieurs films et séries qui ont été très connus et que j'ai beaucoup apprécié.
Excellent. Jim, toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine?
Oui, moi aussi, je vais vous parler de Netflix. J'ai vu un étrange documentaire qui est apparu sur Netflix récemment. Le film s'appelle Voyeur. Et on suit un célèbre journaliste américain qui s'appelle Gay Talese, qui est très connu pour avoir écrit des grands articles dans le New York Times, le New Yorker et d'autres journaux américains. Et le gars est un peu freak dans la conservation de coupures de journaux, d'articles, de photos. Sa maison, c'est comme une espèce de coffre-fort avec des notes qu'il a pris, des idées qu'il a notées sur des bouts de papier, des photos. Mais selon lui, tout est bon à garder parce qu'on ne sait jamais quand un bout d'histoire va servir. Et c'est précisément ce qui se passe dans ce film-là parce que des lettres reçues des années plus tôt de la part d'un voyeur lui permettent de le rencontrer réellement et d'écrire son histoire. Le gars en question se considère comme un voyeur, mais pas au sens grossier du terme, il se voit plutôt comme une espèce de chercheur du comportement humain et sexuel. Ce gars-là a acheté un motel des années avant et avait modifié l'endroit pour lui permettre de voir et d'entendre ses clients dans leur intimité et à leur insu. Durant de nombreuses années, il l'a catalogué et détaillé les pratiques sexuelles de ses clients dans un volumineux document. C'est jusqu'à quel type de relation.
C'est un documentaire ou c'est...
Le documentaire est sur le journaliste qui est en train d'écrire l'article sur ce gars-là. Donc, et c'est un documentaire. Et c'est particulièrement actif comme documentaire. Le gars, c'est un étrange phénomène, puis c'est un drôle de documentaire parce qu'on humanise un peu des gestes d'une drôle de manière que normalement, au niveau social ou même légal à la limite, on n'aimerait pas voir humaniser. Et le gars, il semble pas avoir de remords du tout de ses actions. Au contraire, il pense presque qu'on lui doit quelque chose un savoir unique qu'aucun sondage ni enquête pourrait permettre de connaître. Si vous êtes curieux et si vous voulez en savoir plus sur ce voyeur, regardez le film Voyeur sur Netflix. Le journaliste est intéressant à voir aller, on le voit un peu quand même.
Sinon, faites attention de ne pas écouter la chanson Voyeur de Danny Bédard. Elle est vraiment pas bonne.
Merci Louis de nous
mais
mettre en garde l'auditoire contre... C'est vrai, hein, ça peut arriver, à la bibliothèque, on se trompe. Bon, alors, merveilleux. Sinon, on écoute vos critiques dans quelques instants. Et en attendant, j'en ai une bonne pour vous. Comment on appelle la culture populaire du maïs?
Je l'ignore.
Le popcorn! Voici Cinébrunch! Louis, t'es allé à la chasse?
Non, ben, oui. Pas tout à fait. Écoute, on croirait un remake de cet été parce qu'on a encore un docteur qui a beaucoup de succès, qui se ramasse dans une situation dramatique suite à un problème avec un enfant.
Et non pas l'infiltration.
Mais pas d'infiltration, okay. Cette fois-ci. Par la bande-annonce. Puis je vais expliquer ce qui se passe après.
OK.
We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space.
Yeah, I'm really sorry about Pod.
It's nothing serious.
No, it is.
Like we're the stars of the human race. Human race.
Where did you two go?
When the lights started out. They don't know what they heard. Strike the match, playing loud, giving love to the world.
How did his father die?
We'll be raising.
A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can.
'Cause we got the fire.
Don't be scared, Mom. Yeah, we'll see. You won't be able to move either. But to get used to it.
Where is she? What did you do to her?
We're gonna let it burn, burn, burn.
I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price.
It's the only thing I can think of as close to justice.
We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out.
Oh, bam. C'est malaisant. Je sais pas quoi dire.
Fait que la voix de la jeune fille qu'on entend en arrière en train de chanter, c'est l'enfant du personnage principal, joué par Colin Farrell. En fait, le couple est joué par Colin Farrell et Nicole Kidman, donc deux acteurs de renom. On l'entend chanter la chanson Burn de Ella Goulding, puis il a fallu que je fasse des recherches sur cette chanson-là pour essayer de voir s'il y avait quelque chose avec ça, si je comprenais pas. Mais non, c'est vraiment juste choisi pour l'espèce d'aspect... cute, pas, mais en même temps malaisant de par ça. Parce qu'il faut comprendre que, là, je vais vous lire le résumé qui est donné du film, là, mais ça compte pas vraiment.
Ah, OK.
Fait que Steven, brillant chirurgien, marié à Anna, ophtalmologue respectée, et vivent heureux avec leurs enfants, Kim, qu'on vient d'entendre, et Bob, 12 ans. Depuis quelque temps, Steven a pris son aile, Martin, 16 ans, un jeune garçon qui a perdu son père. Ce dernier s'immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu'à conduire Steven à un impensable sacrifice. Là, il faut aussi que je mette en perspective que c'est dirigé par Yorgos Lanthimos. Tu sais, le gars qui a fait The Lobster en 2015?
Oui!
Ouais, ce dude-là.
Ah bon? OK. Ouais, ça explique mieux un peu le
C'est comme
le
les airs, violence, contenu sexuel, nudité, okay. Langage. L'idée de la mise à mort du cerf sacré, c'est basé sur la tragédie grecque d'Iphigénie à Olysse, que Euripide a écrit là, 400 ans avant Jésus-Christ, qui raconte l'histoire d'Agamemnon qui, avant de partir pour Troie, doit sacrifier sa plus vieille fille parce qu'il a offensé Artémis. Et dans la légende, au dernier moment, Artémis remplace la jeune fille par un cerf sacré. Donc, tout le film tourne autour des thèmes du sacrifice. tourne autour de l'idée de, du mysticisme versus la science, parce qu'on se ramasse avec Colin Farrell qui joue un cardiologue de renom, qui contrôle son environnement, qui est très à l'aise dans ce qu'il a, dans ce qu'il fait.
Et c'est pas un peu bizarre de voir Colin Farrell dans un rôle comme ça?
Honnêtement, un, la barbe a fait que je l'ai pas reconnu, okay. Mais deux, non. Honnêtement, il est très crédible. Je pense qu'il n'y a pas un acteur là-dedans qui n'était pas à sa place. Il y avait entre autres Barry Keoghan, qu'on a vu cet été, toi et moi, dans Dunkirk.
Oui.
C'était le jeune garçon français qui était
oui,
là.
Oui.
Mais vraiment, c'est lui qui joue Martin, qui est l'espèce de jeune garçon qui est l'élément déclencheur de ce drame-là. Faut comprendre, là, tout ce film-là se base autour de ces cinq personnages-là que je viens d'écrire et leur espèce de relation vraiment malaisante. Je pense qu'il n'y a pas un moment où tu te dis ces gens sont équilibrés et en bonne santé. Il y a toujours une volonté de contrôle trop grand. Il y a toujours une volonté, on voit dans la cuisine de ces gens-là et c'est excessivement stérile. Ça file hôpital dans leur maison. Impression qui est renforcée quand au milieu du film, les lits d'hôpitaux sont amenés dans la maison, mais lui est cardiologue, elle est ophtalmologue et il y a j'aimerais ça vous expliquer l'histoire, mais j'ai l'impression que l'histoire prend un second rôle par rapport aux émotions qu'on doit vivre dans ce film-là. On sert d'une trame qui est proche du quotidien pour vraiment nous faire sentir une peur primale, une espèce de désir de s'échapper vraiment intense. On sort de là pas bien. Mais en même temps, on a tellement traversé d'émotions, c'est tellement une montagne russe d'un paquet d'affaires qu'on ne peut être qu'impressionné du maestro, du directeur pour nous faire vivre toutes ces émotions-là sans jamais qu'on arrive au point où on a envie de sortir de la salle. On a toujours envie de voir la scène d'après. On a aussi, je dois admettre que la référence au drame grec au beau milieu d'un film qui s'enlignait vraiment pas pour ça était de toute beauté. Honnêtement, les acteurs enfants étaient excellent, c'était extraordinaire dans ce film-là. Bref, je ne peux que recommander La mise à mort du cerf sacré pour les gens qui ne sont pas des cœurs sensibles. Il y a quand même des scènes très graphiques. Là, le film ouvre sur une opération à cœur ouvert, mais vraiment vu de près sur le cœur en train de battre dans la cavité d'une personne. C'est un solide 9 sur 10. Par contre, c'est ça. Ne pas amener les gens qui ont de la misère avec la violence ou le malaise ou le sang.
OK. OK. Enfin, c'est surprenant. On dirait qu'il y a une recrudescence de ce type de film cette année. On dirait qu'il y a comme un boom, non?
Non, en fait, c'est un type de film qui est quand même assez vieux. C'est juste qu'on entend moins parler. Qu'on pense à Lars von Trier, qu'on pense au dernier projet de Yorgos, qu'on pense à Aronofsky qu'on avait vu dans Mother. C'est tout ce genre de film-là. Ici même au Québec, avec Xavier Dolan, qui aussi beaucoup travaille dans ce barème-là. C'est plus que je pense que parce qu'on en parle au cinéma puis parce que j'aime ces films-là, j'en parle dans nos critiques, je te fais découvrir un peu cet aspect méconnu parce que difficile d'accès à l'occasion du cinéma d'auteur.
Merci de nous partager
ce
niveau de conscience. Mélina, fini le temps de La Reine des Neiges et des Princesses. Tu as trouvé ton prince pour Noël sur Netflix en plus.
Oui, exactement. Donc, cette semaine, je suis restée chez moi et j'ai vu un film sur Netflix, film qui vient de sortir le 17 novembre dernier, et un film qui s'appelle Un prince pour Noël. C'est une production originale de Netflix.
Si je peux me permettre, au début, on s'est questionné sur la pertinence de faire des critiques de films Netflix, mais après la série de films vraiment décevants que Mélina a vu au cinéma, moi, j'étais prêt à tout lui accorder.
Oui, oui, tout à fait. C'est compréhensible.
C'était dans mon droit. Est-ce que c'est un film moins décevant que les autres? Vous le saurez dans quelques instants. Donc, le film Un prince pour Noël, c'est un film réalisé par Alex Zamm, qu'on a entre autres connu pour Dr. Dolittle 5, donc le dernier de cette série.
Je pense même pas qu'il y en avait eu 5 de ça.
Oui, il y en a eu 5. Donc, évidemment, c'est une comédie romantique qui se passe dans le temps des fêtes. Donc, on est un peu avec la thématique qui se passe en ce moment.
La thématique du temps des fêtes.
Dans la thématique du temps des fêtes.
Okay.
Donc, c'est une comédie romantique qui met en scène Rose McIver dans le rôle de Amber, qui a joué notamment la fée Clochette dans la saison 3 de Once Upon a Time et qui est également l'héroïne de la série fantastique iZombie. Et ça met aussi en scène Ben Lamb, qu'on a connu dans Les Insaisissables 2 et dans la série Divergente, qui joue le prince Richard. En fait. Ah. Donc, avant d'en dire plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Oublie la Fashion Week. Si je te parle de la famille royale d'Aldovi, qu'est-ce que ça t'évoque?
Eh bien, je sais que le roi est mort l'an dernier et que le prince supposé reprendre ses fonctions est instable.
Et un mondain à la vie sulfureuse.
Pourquoi moi?
Tu as du talent, de l'ambition, tu es intelligente.
Et tout le monde est booké la semaine prochaine, malheureusement.
Si tu réussis ce reportage, ça va propulser ta carrière.
C'est ça, oui, je suis à l'intérieur du palais.
C'est mieux qu'une interview exclusive. Fais un maximum de vidéos, de photos, réunis un maximum d'éléments.
Bonsoir.
On y va?
C'est parti!
Tiens-toi bien!
Oh, tu vas voir. Oh.
Vous avez l'air totalement fasciné par mon frère.
La rumeur prétend aussi que vous ne voulez pas renoncer à votre mode de vie.
C'est quoi, mon mode de vie?
Je sais pas, peut-être. Des femmes, du vin, de la musique.
Alors c'est comme ça que vous l'imaginez?
Je ne connais pas grand-chose de vous.
En tout cas, j'espère que vous serez là demain soir.
Demain soir?
Oui, au bal du réveillon.
Quoi? Qu'est-ce que c'est?
Leur mission, faire de toi une bombe! On peut savoir ce que tu attends?
Pourquoi tout le monde me regarde?
Parce que vous êtes magnifique. Un roi peut se sentir très seul, vous savez, quand il n'a pas sa reine.
Donc voilà, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Amber, une jeune journaliste américaine qui est envoyée à Aldovia, qui est un pays fictif européen, pour assister à une conférence de presse suite à la mort du roi. Donc, le prince ne se présente pas à la conférence de presse et elle décide donc de rester sur place pour trouver des scoops sur le futur roi. Donc, elle est envoyée là peu avant Noël parce que la cérémonie de couronnement a lieu la veille de Noël. Comme je disais, c'est une jeune journaliste, donc sa patronne l'envoie là parce que tous les autres journalistes ne sont pas disponibles. Donc, elle veut faire ses preuves un peu. Donc, elle réussit à se faufiler dans le château. Puis là, il y a quelqu'un qui la surprend en train de prendre des photos. Puis il dit « Ah, vous êtes américaine? » Puis elle dit « Oui, il dit « Ah, vous êtes la nouvelle tutrice de la princesse Emily. » Puis là, elle dit « Oui. » Donc, elle se fait passer pour la nouvelle tutrice de la princesse Emily. Donc, elle lui enseigne différentes matières, alors qu'elle est forte en littérature, mais pas du tout en mathématiques. Donc, c'est très drôle comme situation.
Mais la vraie, elle va arriver à un moment donné, là.
Non, mais la vraie, elle arrive juste après le jour de l'an. Donc, on est comme là 2 semaines avant. Donc, on la voit pas, la vraie, en fait. Puis là, c'est ça, elle va essayer de comprendre pourquoi le prince ne se présente pas aux conférences de presse, s'il veut vraiment devenir roi. Il y a le cousin aussi qui veut absolument devenir roi puis qui magouille pour ça. Donc, il va y avoir plein de retournements de situation pour finalement arriver à une fin digne d'une comédie romantique. Donc, c'est un film à écouter dans le temps des fêtes, en famille. Il ne faut pas s'attendre à rien de plus non plus. Je veux dire, on sent un peu une trame de fond qui ressemble au Journal d'une princesse avec Anne Hathaway qui est sortie là peut-être 15 ans ou 20 ans même. Donc un film si on veut d'une jeune américaine qui se retrouve dans un pays où il y a des rois et des reines et qui se retrouve mêlée à cette espèce de monarchie là. Pour ma part, j'ai apprécié le film, là. Je vous dirais, c'est pas le film de l'année. Je pense qu'il y a des meilleurs films de Noël qui ont été faits que ça. Mais, écoutez, une soirée, une journée qui neige vraiment beaucoup, qui fait froid, que vous avez envie de rester à la maison, de vous coucouner, d'écouter Netflix, que vous avez envie d'un film cute et qui va juste passer le temps, écoutez ça, Un prince pour Noël. C'est bon, c'est cute. Moi, j'aimerais un 6.5 sur 10. Là.
OK, c'est pas si bon que ça.
C'est pas si bon que ça, mais je veux dire, c'est pas un film qui change ta vie. Là. C'est un film...
Je pense que c'est un de ces films bonbons.
Oui, c'est un film... Oui.
C'est ça.
Ah oui, OK.
C'est un film rose bonbon, clairement.
Canne de Noël.
Canne de Noël, chocolat chaud, doudou...
Quand on est tanné des films comme La mise à mort du Saint-Agré, là, comme ton univers est complètement détruit, puis écoute.
Pourquoi pas
un petit prince pour Noël, Noël, c'est correct.
Exactement. Okay. Donc voilà.
Ben merci Mélina.
Merci.
Là, il nous manque un serveur.
Ben, c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai appelé quelqu'un pour le remplacer.
Bon, mais dis-moi quand il est là que je le vois.
Surtout, tu te démontes pas, d'accord? Parce que j'ai dit que t'avais de l'expérience. Donc...
Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions mécaniques, mais...
T'es abusé, toi, tu connais rien, tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson.
Ah ouais, parce que je me disais, quel rapport avec serveur?
Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson.
Le loup, c'est un poisson.
Il faut aller chercher les chefs dans le camion.
Il y a des chefs dans le camion? Samy, va me chercher des flûtes.
Des flûtes?
Tu fais quoi, là?
Il y a que ça comme flûte.
Tu viens avec moi?
Non, mais souvent, on a des problèmes, on les comprend pas, vos textos.
Pas du tout, hein, je suis
bah,
pas...
Tenez, regardez, si vous voulez.
Et pourquoi il a écrit ça?
Bah, l'autre jour, vous m'avez envoyé merci, Seb, pour ton gentil massage.
Tu vois, c'est, voilà, ça, c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations. Je me retrouve avec des trucs débiles, là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil.
Les smileys, ça.
Ouais, voilà, les ça, là, oui. Dès que la surprise du marié est terminée, on envoie. D'ailleurs, garde un peu ton portable à la main. Comme ça, moi, je t'appelle et je te dis go.
Ou juste un texto, hein.
Non.
C'est trop risqué. Bien sûr, d'accord.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du film « Le sens de la fête », film français co-écrit et co-réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, qui nous avait donné d'excellents films, notamment « Les Intouchables » et « Nos jours heureux », deux de mes films favoris. Le film met en scène Jean-Pierre Bacri, Ey Aïdara, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch et la Québécoise Suzanne Clément, oui, dont l'accent québécois est d'ailleurs absolument indiscernable.
Oui, moi je l'avais vue dans le film, puis je disais, cette actrice-là ressemble vraiment beaucoup à Suzanne Clément, et Jim de me dire, non, je pense pas que c'est elle, mais finalement, oui, c'était bel et bien elle.
C'était bel et bien Suzanne Clément, en tout cas, bref. Si Nos jours heureux nous faisaient voir les coulisses de l'organisation de camps de vacances pour enfants, Le sens de la fête, lui, nous fait plonger dans le monde de l'organisation d'événements et plus précisément de fêtes et de mariages. Jean-Pierre Bacri incarne le rôle de Max, le propriétaire de la compagnie qui gère le mariage, un vieux routier qui en a vu d'autres, très professionnel mais au caractère à la fois sévère et compatissant, coincé entre sa maîtresse et sa femme. Tous les acteurs sont très bons, la plupart des personnages sont très attachants. La plus grande partie du film se passe durant le jour du mariage de Pierre et Elena. On suit l'organisation, la préparation, la cuisine, le photographe, les musiciens, le DJ, les coordonnateurs, etc., et du début de la journée jusqu'à la fin. Et je pense que ça montre assez bien le stress que peuvent symboliser ces fêtes-là pour les clients comme pour l'équipe d'organisation. On veut que tout soit parfait. Mais évidemment, on y met toute la sauce, les pires choses se produisent, on voit des gens se démener pour sauver les meubles. Bon, vous voyez un peu le tableau. On reconnaît dans ce film-là la touche de Toledano et Nakache, des personnages aux personnalités spécifiques et exagérées, comme le fait si bien la comédie française, des rapports complexes, souvent conflictuels entre les personnages et l'inévitable revirement de situation entre la haine et l'amour, le passage du drame au burlesque. En termes de style, on est en terrain connu avec Le sens de la fête, mais là où ça se joue, et c'est ce qui fait, c'est ce qui en fait une grande comédie, c'est absolument tordant. C'est drôle du début à la fin. J'ai ri parfois à plusieurs niveaux, même si c'est pas nécessairement le style du film. Donc, le film ne réinvente pas la roue, mais la roue, elle tourne drôlement bien, elle est bien graissée. Le film est littéralement impeccable au niveau comédie. C'est une des meilleures comédies que j'ai vues et certainement la meilleure comédie de 2017.
Ouh, strong words.
Ah oui, ah oui, carrément. Et moins touchant que Les Intouchables, plus drôle que Nos jours heureux, mais quel film! Je pense que j'ai ri autant que pendant Dîner de cons, pour vous donner une idée un peu du calibre du film. C'était un drôle de...
Moins touchant que Les Intouchables! Vraiment!
C'est pas pire, hein?
Vraiment! Tu pensais la glisser comme ça commence à rendre compte! Ouais, hein?
Ça vient,
non,
là?
Non.
Coudonc. Vraiment, honnêtement, allez voir ce film-là et vous allez... Mais alors là, je vous le dis, vous allez vous bidonner, mais quelque chose de concret, hein? Donc, voilà. J'ai voulu prendre l'accent pour...
C'était comme marseillais, c'était pas clair.
Ah oui, peut-être un peu. Hein. Bon, enfin, le sud de la France, disons. Je donne donc généreusement la note de 8,5 sur 10 à ce film-là, en tant que film, mais en termes de comédie, s'il n'existait que des comédies, je donnerais facilement un 9 sur 10, qui, selon mes standards, est très élevé. J'annonce d'ailleurs que Le sens de la fête a maintenant joint le palmarès des meilleures comédies françaises de Jim, près des Intouchables, de Bienvenue chez les Sties et du Dîner de cons. C'est un bon film pour se détendre pendant les fêtes, plaisir et humour garanti. De retour à Cinébrunch, dans quelques minutes, on va vous parler de Star Wars épisode 8 qu'on critiquera en gang. Mais avant toute chose, c'est le moment de notre quiz French Marie Gifle. Ah, j'aime tellement ce jingle, c'est incroyable. Ça veut pas finir.
Il est spécial un peu.
Un peu. French Marie Gifle, c'était un petit jeu dans lequel, pour un thème donné, chaque joueur doit, à tour de rôle, choisir entre trois éléments, lequel il frenchera, on parle de plaisir immédiat, lequel il mariera, on parle d'engagement à long terme et de confiance, et là, finalement, lequel des trois il giflera, on parle donc de refus et de boycott. La semaine passée, on a fait un French Marie Gifle sur les personnages féminins de Star Wars, mais cette semaine, sortons des sentiers battus, messieurs, dames, on y va avec les droids, les robots de l'univers de Star Wars. R2-D2, C3PO et BB-8, en français ça doit être BB-8, j'imagine, qu'on a vu dans les épisodes 7 et 8. Louis, French, Marie Gifle.
Oh, tu commences avec moi. Moi, je vais avoir des choix non conventionnels aujourd'hui. Moi, je marie un choix stable, qui sait où il s'en va, prudent de sa personne, qui connaît ses limites. Je marie C3PO. Je pense que le droïde de traduction et de courtoisie, qui a en ce moment donné plus de 65 000 langues connues dans la galaxie, est un choix extraordinaire pour une vie stable et rangée.
Oui, mais ça doit être vraiment pénible.
Oui, mais ça doit être tellement bien placé. Ça doit être tellement courtois et de bonne mine. Je marie C3PO. Je French sur sa ronde tête BB-8. De par son charme et de par sa candeur de petit robot qui fait tout, on l'a vu particulièrement, on en parlait tout à l'heure, mais qui réussit tout ce qu'il entreprend et qui roule de sa boule bien huilée vers l'avenir. Je gifle R2-D2.
Wow.
Parce que je suis pas encore revenu de l'épisode 7 où est-ce que il s'est endormi au milieu de l'excitation puis d'une bataille.
C'est vrai que c'est un peu bizarre.
Oui. Toute la galaxie, il fait juste « mais je m'en vais ». Moi, je trouve que cette attitude-là est hautement détestable et je pense qu'on devrait pas encourager ça. Par conséquent, d'un revers de la main bien senti, je gifle R2-D2.
Sacré Louis.
Je suis flabbergasté.
Moi aussi.
Eh bien, Mélina, French Marie Gifle.
Oui, ben en fait, moi, je gifle carrément C3PO parce que je le trouve énervant, en fait. Avec son côté trop, comment on dirait, là, il y a toujours le pied sur le break un peu.
Oui, 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 c'est vrai qu'il est peureux un peu.
Oui, un peu.
Puis il parle.
Il parle beaucoup, puis il est tout le temps, c'est ça, à reculons. Donc, je le gifle et je marie R2-D2 pour son côté fidèle et attachant. Wow. Il est là depuis le début, toujours là à soutenir nos héros. Et alors, je French BB-8 parce que je pense que c'est le robot le plus cute, le droïde le plus cute de
Star
Wars.
Ça, je m'y attendais.
Il est cute, il est drôle avec ses petits bruits et encore plus cute qu'R2-D2 qui était déjà cute. Donc, j'y vais d'un French bien senti.
Moi, je fais juste souligner que sans C3PO, on n'a aucune idée de ce que ces deux robots-là disent. Par conséquent, mon choix, encore une fois.
Non, mais moi, j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'ils disent.
Bon, alors, de mon côté, je marie R2-D2 parce qu'il est présent dans tous les épisodes, qu'il a été à la fois le droïde d'Anakin, mais aussi celui de Luke, mm-hmm. et qu'il a sorti les copains du trouble à de nombreuses reprises, mais surtout parce qu'il est grandement plus low profile que ses compagnons métalliques. Pour satisfaire son insatiable curiosité, Louis, sache que quand j'étais jeune, on avait un aspirateur qui avait la forme d'R2-D2 qu'on nommait du même nom. Bref, je marie R2-D2.
J'avais aussi une corbeille à papier qui avait la même forme et qui portait le même nom. Je pense pas que ce soit un bon...
On peut pas dire qu'il y a pas le sens de la répartie. Donc, j'ai hésité longuement entre BB-8 et C3PO. J'ai choisi de frencher BB-8,
oui.
Malgré qu'il est une copie ludique d'R2-D2, qu'à part d'être mignon et de se prendre pour un chien, il sert pas grand-chose. Aussi, j'ai beaucoup de misère à croire qu'il peut rouler dans le sable. Ça, franchement, Louis, ça doit être bien graissé. Je trouve que c'est spécial.
Sur tout l'univers de Star Wars, sur les casinos extraordinaires, sur les planètes, sur les armes qui détruisent des planètes, sur les royautés mal expliquées, ton gros point de contention où tu dis « Non, stop, je refuse », c'est le fait que BB-8 roule dans le sable?
Non, c'est un point supplémentaire. Non, il sert à rien, en fait. C'était mon point. Et je donne donc une gifle monumentale à 3PO parce que c'est à la fois le droïde le plus gossant, mm-hmm. mais aussi celui qui parle, et le seul qui parle, en fait, mais qui parle sans arrêt parce que, plus souvent qu'autrement, il nuit sans aider et parce qu'il donne son opinion sans arrêt. Malgré tout, c'est un robot mal élevé, délaissé par son créateur Anakin. Sans lui, on saurait peu de choses sur la pensée d'R2-D2, donc je le gifle, mais je reconnais son importance. Mais il gosse, donc je gifle. Voilà. Donc, dans quelques instants, on va parler de Star Wars, mais juste avant, une petite bande-annonce de l'épisode 8.
Voilà. Respire. Maintenant, concentre-toi. Que vois-tu?
La lumière.
C'est tellement plus grand.
C'était grandiose comme bande-annonce, mais ça disait peu de choses, mm-hmm. relativement peu de choses. Alors, on est trois, on est jeunes, on est tous allés voir Star Wars, et si vous n'êtes pas encore au courant, l'épisode 8 est sorti ce jeudi. Je m'essaye une deuxième fois, on sait jamais.
Je reconnais de moins en moins dans cette émission-là.
On voulait discuter de la gestion des poubelles dans l'univers de Star Wars, rebut abandonné dans l'espace, compacteur à déchets, mais on a plutôt choisi de faire une table ronde sur l'épisode 8, le dernier Jedi, d'ailleurs parfois mal traduit dans les derniers Jedi, j'ai pas trop compris pourquoi. D'abord, pour résumer un peu l'histoire, vous savez qu'à la fin de l'épisode 6, Luke Skywalker, qui vient d'apprendre que la princesse Leia est sa propre sœur, assiste à la mort de l'empereur Lord Sidious, le grand méchant, et de Darth Vader. Son propre père est responsable de la mort de milliers de Jedi. Dans l'épisode 7, l'éveil de la force, qui se passe des années plus tard, on apprend que Kylo Ren, qui est un peu l'espèce de en fait, qui est le fils de la princesse Leia et d'Han Solo, qui idolâtre et personnifie presque Darth Vader en suivant les pas du nouveau super méchant Snoke, le chef suprême du Premier Ordre, qui est un peu le nouvel empire du mal, qui gouverne désormais la galaxie. La princesse Leia lutte avec la résistance alors que Finn, un soldat ennemi qui déserte et se joint à la résistance, Rey, une jeune femme qui apprend à contrôler la force, sont témoins du meurtre d'Han Solo par son propre fils Kylo Ren. Comme dernier espoir de la résistance, Rey est envoyée sur une planète lointaine pour retrouver nul autre que Luke Skywalker qu'on annonçait en deuxième au générique de l'épisode 7, malgré qu'il soit présent une vingtaine de secondes seulement, sans aucun dialogue. Eh bien, dans l'épisode 8 fraîchement sorti, on retrouve sensiblement les mêmes personnages, Rey et Finn, qui se démèneront en compagnie de Chewbacca pour tenter d'arrêter la folie de Kylo Ren, le super méchant Snoke. Luke Skywalker, maître Jedi et seul Jedi connu, encore vivant, viendra-t-il à la rescousse de la résistance et de la princesse Leia? Luke enseignera-t-il la force à la jeune Rey? Chewbacca pourra-t-il manger son poulet en paix sans être dérangé par des jeunes oiseaux trop cute pour être dans Star Wars? C'est ce que vous verrez en regardant Star Wars épisode 8, le dernier Jedi. Comment avez-vous trouvé ce film, monsieur Dan?
Là, juste arrêter une seconde à propos des poulets cute. Je tiens à souligner que Star Wars a un long historique très répertorié d'installer des animaux vraiment cute dans ces films sans raison autre que de vendre des peluches là, comme voir ici les Ewoks, BB-8, les Gungan, on peut remonter loin.
Mais je crois qu'il y avait aussi un appel au à devenir végétarien dans ce côté-là parce qu'ils mangent le poulet.
Je pense que le lobby végétarien devait être assez fort à Disney à ce moment-là, effectivement.
Je vais pas répondre à ça.
Bref.
Mais qu'est-ce que j'ai pensé du film pour te répondre à ta question, Jim? Moi, j'ai adoré ce film. Moi, j'ai officiellement déclaré en sortant que c'était mon presque meilleur Star Wars. C'était le film qui me rapprochait de la nouvelle trilogie. Suite à l'éveil de la force qui m'avait un peu laissé, j'avais aimé, mais qui m'avait un peu mis en crainte qu'on soit en train de revoir une simple récréation de la trilogie originale. Là, je pense que c'est un film qui prend son envol qui, oui, a peut-être une ou deux longueurs qui auraient pu être éliminées, mais qui nous donne une histoire et qui nous donne des moments extraordinaires. J'ai jamais autant été sur le bout de mon siège dans un film de Star Wars.
Ah oui, mon Dieu, tant que ça?
Ah, les scènes de combat étaient juste monstrueusement bonnes. Là, je veux dire, il y a des moments où je me demandais que si j'étais là ou dans un film de Rapide et Dangereux. Mais non, j'ai adoré ce film avec une passion.
Clairement pas dans un auto. Mais je dois souligner la performance de Luke, de
Mark Hamill.
Dans ce film, il était bon dans l'épisode 6, malgré que l'histoire était vraiment pourrite dans l'épisode 6. Mais là, de le voir vraiment acter beaucoup plus tard, avec évidemment tout le bagage qu'on a vu la semaine dernière, qu'il a fait en termes de doublage et autre chose, il était parfait dans son rôle, un peu cynique, un peu ermite.
Les scènes, là, je veux pas.
Faut pas dévoiler la fin, parce que c'est la plus belle fin de tous les Star Wars.
Mais de le voir lors des scènes de combat, son visage défiguré par les émotions qui traversent son cœur à ce moment-là, on reconnaissait pas le jeune garçon tout droit sorti de la ferme de l'épisode 4-5-6 qu'on a connu. C'était un look vraiment plus âgé, vraiment plus mature,
c'est ça.
Qu'on a retrouvé là.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord.
Bien sûr. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je pense qu'il était très bien réalisé, il y avait des super bons éléments. Comme tu dis, les acteurs étaient bons. Ça a vraiment sa place dans un univers qui existe depuis plus longtemps que je suis née. Donc, on est vraiment dans un univers, je veux dire, c'est historique, là.
Tout à fait. Il y a quand même certaines mentions qui méritent d'être dites de choses qui marchaient pas dans ce film-là. Je vois Louis qui se met sur ses gardes tout de suite. Pardonnez-moi l'expression, mais la princesse qui vole dans l'espace...
L'oxygène, non? Non, mais elle a la force.
À un certain point, il faut que tu acceptes que... D'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai remarqué et qui m'a beaucoup fait... j'ai beaucoup aimé. Un des trucs qui était vraiment décevant de la trilogie des 1, 2, 3,
c'est
l'histoire de qu'est-ce que c'était que la force, qui était finalement juste une bactérie dans nos veines qui était les midi-chloriens. Là, on explorait un côté de la force qui était vraiment plus intéressant. Il y avait une explication vraiment plus mystique, mais en même temps vraiment plus holistique de qu'est-ce que c'était que la force. Puis
plus
avec...
spirituel, en tout cas.
Oui, puis avec l'explication qu'on en a, je pense qu'on peut justifier une princesse volante dans l'espace, mais parce que l'univers Star Wars, à un moment donné, il ne faut pas que tu lui demandes non plus un réalisme. Je parlais plutôt de la mise à mort du cerf sacré. C'est vraiment pas le même registre de film. C'est vraiment pas le même. Il y a tellement de moments où est-ce qu'il y a du Deus Ex Machina, si vous excusez mon latin, où est-ce qu'il y a des moments où une les situation actes de Dieu, qui semble absolument impossible à résoudre, soudainement, un acte de Dieu, un MacGuffin qui descend du ciel pour régler la situation. D'ailleurs, si j'avais une critique à émettre à ce film-là, mais je la ferai pas parce que ce film-là était parfait, mais...
c'est exagéré,
certains de ces Deus Ex Machina-là étaient peut-être une touche un peu too much, si je peux me permettre l'anglicisme. C'est-à-dire que il y a des moments où j'ai fait « Ah, mon Dieu, ça va planter. Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Puis là, tout va mieux.
Mais c'est drôle, moi, j'ai trouvé que dans ce film-là, il y avait beaucoup de choses qui avortaient, de tentatives qui marchaient pas. Je me suis dit, à la limite, on en met peut-être un peu trop pour rien. Pourquoi nous avoir fait perdre trois quarts d'heure sur une affaire qui servira pas? Ça m'a un peu dérangé.
Moi, on parle de la scène du casino en particulier.
Personnellement, la scène du casino, il est bien beau le casino, mais j'ai trouvé qu'on sortait un peu du cadre. On arrivait dans une autre époque ou dans un autre environnement qui marchait pas avec l'univers, à mon goût personnel. Et le briseur de code qui ressemble à Eric Lapointe... pourquoi?
Non, mais en fait, c'était un caméo d'un acteur qui était dans les 4-5-6. C'était comme ça l'histoire.
Ah bon, OK.
Il y avait quelque chose, là. Mais si je peux me permettre, moi, je trouve au contraire que le casino était une bonne chose parce que c'était un moment où on sortait... On sortait du trop d'émotions, du trop lourd que pouvaient être les scènes. Parce que c'est un film qui se définit principalement en deux temps. On suit l'histoire de Finn, Poe et Sigde Rose, un nouveau personnage qui vient d'être introduit, qui est une mécanicienne
Ouais. T'as-tu aimé ce personnage-là?
J'ai adoré.
Ah oui, moi j'ai bien aimé sa sœur, mais non.
Ah non, moi je honnêtement, j'espère en voir plus. Ah, puis ouais. Ça me donne envie d'aller voir si dans l'univers étendu, son personnage est mieux développé.
Ah moi c'est drôle, c'est l'inverse. Je trouvais que leur rencontre était comme fortuitement... Ah non,
était parfait,
ça marchait pas. Ils parlaient en même temps comme si... Moi, j'ai de la misère avec les coups de foudre instantanés au cinéma. Je trouve que c'est un peu trop facile.
Non, mais c'est un moment parfait parce que c'est un moment où on voit justement où elle idolâtre un personnage puis qui finalement est un peu décevant ou est pas nécessairement à la hauteur de ce qu'il pense. Puis c'est une belle manière de mettre face fine à ses émotions ou à comment est-ce qu'il vivait jusqu'à présent, parce qu'on l'a toujours senti un peu sur le point de partir, puis je pensais que c'était une belle motivation pour okay. lui de rester là.
Eh bien, vous oui, Mélina, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, votre note.
Ah, ben, je peux donner ma note, mais moi, je voulais juste dire que ce que j'ai aimé beaucoup dans ce film-là aussi, c'est qu'on allait développer beaucoup d'histoires, de questions, on allait répondre à beaucoup de questions qui étaient laissées en suspens dans l'épisode précédent. Donc, j'aimais ce côté-là qui était plus... qu'on allait plus un peu... Ben, on y allait ouais. pas beaucoup, mais dans l'histoire des personnages, on comprenait un petit peu plus leur motivation, on comprenait un peu plus l'historique des personnages qui étaient juste pitchés dans l'épisode précédent. Donc, moi, j'irais avec un 8.5 pour ce film-là.
8.5, Louis?
9, solide.
Ah oui, carrément. Et moi, je vais être le plus cheap de vous tous. Je vais donner 8 à ce film parce que, personnellement, il y a des affaires qui m'ont trop dérangé dans ce film-là. J'ai pas aimé l'abondance d'animaux mignons et de B.B. King qui se transforme en Saint-Bernard ou en Labrador ou je sais pas quoi.
Ça, c'est peut-être la touche Disney. Là,
ouais, j'ai peur que Disney... En fait, j'ai l'impression d'être dans un Disney Pixar, des fois. Il y avait comme juste trop d'animaux avec des gros yeux bleus, là, qui te... Je trouvais que...
Il y a eu deux scènes avec ça.
Non, plus que ça.
Il y a eu deux
les
scènes d'importance avec
les petits oiseaux, les...
C'est tout.
Non, il y a... Ben non, B.B. King, il flatte comme un chien.
BB-8.
B.B. King. Bonne celle-là.
On peut faire du jazz, si tu veux, là, comme on parle, oh, mais... Boy. Ouais. Mais non, mais au contraire, je trouvais que c'est une scène de super belle amitié avec Po. Bref, moi, je tiens sur mon œuf, puis je pense que t'es trop solide.
Bon, ça doit être moi. Superbe. Mais merci, c'était fort agréable, mais un excellent film et la fin extraordinaire.
Film à voir, définitivement à voir.
Tout à fait. Ah, John Williams, merci pour cette magnifique chanson.
Ça me donne des frissons à chaque fois que je l'entends.
Ah, quelle bonne pièce. Louis, qu'est-ce qui s'en vient au cinéma?
Et là, je serai pas aussi efficace que les dernières fois sur les explications sur les films parce que il y a comme 8 sorties cinéma cette semaine.
Ah oui?
Oh oui, on a Jumanji, Bienvenue dans la jungle, la version française de Jumanji, Welcome to the Jungle, avec entre autres Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart, Jack Black, que j'aime tant. On connaît, c'est la suite de Jumanji. C'est pas un remake, c'est pas une suite. C'est une weird place. Au lieu d'être un jeu de table, cette fois-ci, ça va être un jeu vidéo.
Ah.
Fait que je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais elle vaut définitivement la peine. Là. Beaucoup d'excitation. Les critiques ont déjà commencé à sortir apparemment que ça va être excellent. Je vais y croire quand je vais le voir. D'ailleurs, pour ça que je vais aller le voir.
Merveilleux.
Le maître de la scène, la version originale de The Greatest Showman, drame biographique qui, avec Hugh Jackman, Zac Efron et Rebecca Ferguson, c'est l'histoire de P.T. Barnum, le premier phénomène planétaire au niveau du cirque. Apparemment que c'est vraiment tourné à la manière d'un documentaire. Ça a l'air vraiment intéressant.
Je pense que Mélina va aller le voir.
Oui, on a vu la bande-annonce hier, puis ça avait l'air très bon, en fait.
Mm-hmm. Ouais. Sinon, il y a le Trip à 3, qui est la comédie québécoise, qui vient sortir avec Martin Matt, Mélissa Desormeaux-Poulin, Bénédicte Descaries, Geneviève Schmidt, Anne-Elisabeth Bossé et Karine Gontier-Hinman.
On va sûrement parler la semaine prochaine,
j'ai des opinions.
OK. Ça promet.
Ben tu sais, quand des fois, tu aimes le cinéma québécois, puis le cinéma québécois t'aime pas en retour.
Ça peut arriver.
C'est un peu mon sentiment quand je vois ça.
Okay.
On a aussi Au revoir là-haut, qui est un drame français réalisé par Albert Dupontel. Qu'est-ce qui se passe?
Non, moi je vais voir ça, c'est sûr.
Oui, ben en fait, on a offert des billets à nos téléspectateurs. Mm-hmm. Suivez notre page Facebook ainsi que notre émission de radio pour plus de concours.
Ben oui, c'est ça.
On a aussi un truc qui s'appelle Figure paternelle, la version française de Father Figures, réalisé par Lawrence Shear. Il y a Owen Wilson, qu'on a connu entre autres dans Wedding Crashers. Il y a Christopher Walken, que j'adore. Il y a J.K. Simmons, qui est là. C'est une comédie américaine, une histoire de deux jeunes qui veulent retrouver leur père parce que leur mère aurait couché avec plusieurs hommes dans sa jeunesse. Ouais. Bon, on peut passer vite. celui qui m'intéresse vraiment puis qui m'excite quand même pas mal, c'est La forme de l'eau. La version française de The Shape of Water, réalisée par Guillermo del Toro. Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg. C'est un truc des années 60. C'est pendant la guerre froide. Les bandes-annonces ont juste l'air extraordinairement bonnes. Ça a l'air d'un film plein d'amour, plein de sentiments, mais aussi de l'horreur de ce que c'est que d'être humain.
Okay.
Ce qui est le genre de film qui me fait triper. Aussi, sur l'horreur d'être humain, il y a la note parfaite 3, Pitch Perfect 3 de Last Show.
Ça te fait triper.
Comment?
Oui, non, c'est bon. Oui.
Non, pas triper. Okay. Anna Kendrick, Hayley Steinfeld, Elizabeth Banks qui revisitent leurs personnages de Note Parfaite 1 et 2. On a aussi Petit Format, la version originale de Downsizing avec Matt Damon qui s'en vient. Ça a l'air super bon. Il y a finalement Wonder Wheel qui est le dernier de Woody Allen qui s'en vient également la semaine prochaine. Bref, une semaine hautement chargée. Oh oui, c'est ça. J'ai vraiment été soufflé à force de courir au travers tous ces chefs-d'œuvre qui s'en viennent.
Non, mais ça c'est avant les fêtes.
Les Oscars
ça paraît. Et en Blu-ray DVD, il y a trois films. Dunkirk, l'excellent et superbe film de Christopher Nolan sur l'évacuation des troupes alliées à Dunkirk en 1940 durant la Deuxième Guerre mondiale.
Excellent.
Excellent film. Les Rois mongols, le bon film de Luc Picard qui suit les enfants durant la crise d'octobre au Québec. Et finalement, Stronger, un drame biographique américain sur Jeff Bossman qui est un coureur et employé de Costco qui a perdu ses jambes lors de l'attentat au marathon de Boston. Les citoyens de la ville lui donneront beaucoup d'amour, semble-t-il. Et Mélina, de ton côté, qu'est-ce qui se passe sur Netflix?
Ben écoutez, vraiment rapidement, j'ai deux trucs qui vont vous intéresser, les gars. Pour toi, Jim, on a la saison 4 de Peaky Blinders qui sort le 21 décembre.
J'avais hâte.
Oui, et...
La télévision, Burke.
Oui. Non, mais Louis, pour toi aussi, on a sur Netflix le 22 décembre le fameux film Bright avec Will Smith que t'as très hâte de voir.
J'ai beaucoup d'émotions.
Ça va être bon.
Ça va être excellent.
Eh bien, excellent. Et sinon, juste un mot pour vous dire que Walt Disney, mais en fait Disney, vient d'acheter la 21st Century Fox et la plupart des films produits par la Fox pour environ 50 milliards de dollars. Donc ça...
Mais là, on parle quand même d'une compagnie qui va posséder plus de 40% des films et des émissions de télévision produites aux États-Unis. C'est quand même gigantesque.
C'est beaucoup, là.
Mais ça pose la question, puis il y a beaucoup d'opinions qui ont sorti sur la mort potentielle des petits films, de ces trucs comme La mise à mort du cerf sacré ou Triple Boards Outside Ebbing, Missouri, que j'ai beaucoup aimé, qui soudainement perdent leur place dans un univers où il n'y a plus de petits ou de moyens studios qui sont capables de produire. Je pense entre autres à 2016, on a eu Gone Girl qui était excellent, mais qui était ça, une production à 5-6 millions. J'ai peur d'un monde où tout ce qu'on a, c'est les indies à moins d'un million et les gigaproductions à 100 millions et plus.
C'est un fait. Sinon, il y a toujours la réponse de Netflix, enfin, ce que ça va avoir comme impact sur Netflix. Et, parce que, Disney est sur le point de lancer sa super
système de
plateforme.
En fait, ils n'ont plus besoin de le faire. Et c'est ça toute la twist. Parce que maintenant, Disney devient propriétaire majoritaire de Hulu, qui est une plateforme de distribution déjà existante.
Ils vont sûrement la bonifier.
J'ai beaucoup plus hâte de voir la réponse, par exemple, de Miramax ou de les autres maisons de production qui, eux, vont devoir soudainement up leur game pour être capable de compétitionner.
Ben oui.
Un sujet fort intéressant, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus éventuellement.
En janvier, je pense que ça ferait la peine de faire un 5-10 minutes sur ce sujet.
Merveilleux. Et c'est déjà la fin de cette émission. Ben oui, c'est ça. Hein? Tous les samedis, 11h, on se voit. La semaine prochaine, on parlera donc, entre autres, du film Trip à 3 et de nos films pour les fêtes, parce que ça sera le 23. Et d'ici là, rendez-vous sur notre site web, cinébrunch.com ou en balado-diffusion sur iTunes, Google Play et RZO. À la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.